l'article, tu nous en parles mieux que moi, que même la fée traditionnelle était une créature moderne en son temps. La première fée du Moyen Âge était la punk de l'époque, la gothique de l'époque, la féministe de l'époque, la sorcière de l'époque, c'était les bougies à blanc, les muqueuses à l'agonie, les ailes foudroyantes. Elle a amené toute la magie, tout le merveilleux, tout déjà à cette époque. Donc cette fée-là, c'est quand même effectivement l'origine de la fée. Or, c'est d'abord la fée vient de Fatum, le destin, la destinée. Mais après, ça se mélange, c'est très complexe. La fée, c'est très complexe. Ce serait quand même un petit peu facile de rester à Fatum. Elle vient de très loin, cette fée. Elle vient des divinités, des anciennes divinités. Elle est aussi l'âme des choses, la nôtre, à mon avis. C'est la femme idéale, la vente idéale, c'est celle qui sait tout, qui comprend tout, qui nous met aussi au défi de combattre des dragons. C'est pour elle que les chevaliers partent en quête et meurent, même les gouttes-pieds, enfin, ils espèrent tout au moins. Elle est tout ça, et aussi elle est la mère ventrière aussi. C'est des surgeons de je pense, de Shinanagi et tous ces personnages. Tous ces femmes matrices, c'est pour ça que très souvent on va voir aussi la fée comme lorsque une femme à l'époque veut avoir des enfants, elle va aller voir une fée, c'est-à-dire une femme qui vit au fond des bois ou dans une grotte et qui a l'esprit de l'eau, qui est l'esprit, elle rassemble tout, la fée. Pour moi, c'est vraiment tous les éléments sont dans la fée. Et donc elle a notre destin, et ce sont aussi ces fées, ces parcs ou normes qui viennent sur le berceau de l'enfant. Et l'une dévide le fil de sa vie, de ce qui va devenir. La deuxième, tu es vraiment une fée, la deuxième, la trame sa vie, et la troisième coupe le fil de sa vie au cours du temps. Donc c'est pour ça aussi que c'est la fée, chez la fée, il y a souvent aussi l'image de la fée marraine. C'est celle qui vient justement sur le berceau de l'enfant, lui offrir son destin. Et donc elles ont dans la main cette quenouille qui finira par devenir la fameuse baguette magique. Hein, donc il y a cette fée des contes, des légendes, et aussi de ce mythe arthurien, mais qui est déjà une image de la femme extrêmement importante. C'est quand même vraiment celle qu'on veut rencontrer. Alors, on va revenir avec Claudinho justement sur ensuite la forme, les formes comprises de ces faits féminines. Mais avant, Pierre Dubois, vous pourriez peut-être aussi nous dire un petit mot sur les autres créatures qui sont aussi considérées comme appartenant au royaume féerique, mais qui ne sont pas féminines. Parce que comme on va les retrouver aussi dans les livres de nos amis, ce serait peut-être bien déjà de poser les bases.
Oui, alors, donc, nous on dit fée pour nous, la fée, c'est uniquement ce personnage étrange, c'est ce personnage d'une beauté incomparable, elle a nulle autre pareille, mais qui peut aussi devenir sorcière. La fée peut aussi devenir sombre, une fée sombre, une fée noire, une fée déchue, comme on va rencontrer aussi chez toi, chez Hélène, même dans les bordels, quoi, la fée rouge. Mais pour les Anglais, ou pour la féerie, n'est pas spécialement, ne décrit pas spécialement les fées. La fée est un personnage de l'autre monde. On ne sait d'ailleurs pas quelquefois si ce n'est pas un fantôme, hein, comme la Dame Blanche, qui est à la fois fantôme, qui est une morte vivante, mais qui est aussi une déesse, mais qui est une déesse des eaux. Tout ça, c'est très fluide. Hein, c'est un monde, c'est l'autre monde. Lorsqu'on pénètre dans l'autre monde, lorsqu'on franchit la passerelle, hein, lorsqu'il franchit pour les fantômes, à sa rencontre, une fois que même Alice, lorsqu'elle franchit
nature est méchante. Non, elle est la nature. Donc il y a des prédateurs dedans, mais tout ça, ça forme un équilibre. De l'autre côté, c'est pareil. L'ombre et la lumière, le vampire et, et tous les personnages sont dans, de l'autre côté. Donc effectivement, on y rencontre tous les monstres et tous les personnages qu'on peut trouver dans l'eau, les sirènes, les nymphes, mais aussi donc les ourisques, les pupilles en vent, les sautés, que les dames aperçoivent toujours trop tard, les massautés, tous ces petits personnages, tous ces lunions, tous ces... Enfin, tout est là, c'est très riche, quoi, en fait.
Alors, justement, on va voir toute cette richesse que ensuite Hélène et Anne ont utilisé. Alors, peut-être avant, on reste encore un peu dans la fille traditionnelle, Claudine Blanc, avec la manière que Pierre Dubois déjà évoqué, dont ensuite elles se sont un peu transformées et ont pris corps dans notre tradition avec la légende arthurienne.
Oui, je vais donc reprendre derrière Pierre, ce qui est toujours une rude épreuve, vous êtes d'accord, toutes les deux aussi, parce qu'on se dit qu'il a absolument tout dit et d'une manière magnifique. Donc derrière, on essaie. Alors moi, je vais pour déjà arriver en déséquilibre par rapport à ce qu'on attend sur les faits. Je vous expliquais que moi, je suis un être très rationnel, que je m'appuie sur des bases solides, que donc pour moi, la fée existe quand le mot existe. Il y a dans toutes les cultures, j'ai cherché, bon peut-être j'ai pu rater quelque chose ici et là, mais il m'a apparu à peu près certain que dans toutes les cultures, à un moment ou à un autre, on rencontre le personnage de la femme surnaturelle, celle qui peut passer de ce monde à l'autre. Les modalités varient infiniment et les rôles aussi. Mais il y a un moment où quelque chose se cristallise, qui apparaît par écrit, mais nous n'avons que des écrits pour fixer nos mémoires, qui apparaît par écrit au XIIe siècle. Le XIIe siècle, quand même un moment où une effervescence extraordinaire pour tout ce qu'on aime, puisque c'est aussi le moment où naît le roman, et Dieu sait qu'on vit encore sur cette forme-là, Dieu sait que le roman nous est encore indispensable, sinon on descend tout de suite de l'estrade et on s'en va. Et l'affaire, à ce moment-là, c'est une femme surnaturelle qui réunit des caractères qui appartiennent à la Grèce ancienne, des caractères des nymphes ou des dryades, qui réunit aussi des caractères du monde scandinave ou celtique, avec une forme humaine magnifique. Et surtout, la différence, je pense, entre la partie nord-ouest et sud-est, c'est que la partie nord-ouest donne à la fée un rôle absolument majeur. Elle dirige, elle commande. en sorte que Lancelot devienne le meilleur chevalier du monde. Mais voler un enfant à sa mère, personne ne dira que c'est un geste généreux. Ne même pas prévenir la mère que l'enfant est encore vivant, je ne vois pas la gentillesse dans ce geste-là. La reine Hélène, de grande douleur, va se réfugier dans un couvent, pleurera toutes les larmes de son corps, devient une espèce de sainte blanche transparente, sentant merveilleusement bon, c'est bien la preuve quand même qu'elle est sainte, mais elle a tout perdu alors que son fils est vivant à quelques centaines de mètres d'elle. Vivienne n'a pas à être gentille. Vivienne doit élever Lancelot comme Vivienne va devoir un jour retirer du monde l'enchanteur Merlin, dont il est dit qu'il ne peut pas mourir avant le retour du roi Arthur, mais il ne peut pas continuer à vivre parmi les hommes parce que le monde change. Et Merlin n'est pas une fée, n'est pas un personnage fée. Donc voilà un petit tableau aussi.
Merci, Claudine, parce que du coup, ça me permet de faire l'enchaînement avec ce que
envahir la ville et donc nuire fortement au commerce de la prostitution et de l'alcool. On est en pleine prohibition. Donc il a évidemment trouvé quatre losers qui s'appellent les No-Hear-Forts et qui sont là pour régler les histoires de faits, qui ne s'occupent que des faits. Donc il n'y a pas de féminisme du tout. Il n'y a pas d'engagement du tout. Il n'y a pas d'autre propos qu'une chouette aventure de quatre branques entre Roger Rabbit et Audiard, à peu près, et qui se retrouvent face tout le temps à des faits super agaçants. Par exemple, il y a des faits monnayeurs. Les pochons sont devenus des faits monnayeurs. Donc, ils font des faux billets au fond des entrepôts. Il y a un bordel féerique aussi. Il y a plein de choses qui concordent. Il y a quand même pas mal de faits traditionnels, puisque la base a été, comme d'habitude, Pierre Dubois, dont je suis fan depuis mes 8 ans. Et donc, c'était vrai, ça a été vraiment la référence absolue avec Xavier Delot, donc avec qui j'ai créé American Faith, puisque on a pris pas mal de faits dans ces encyclopédies, voire je l'appelais quand moi j'avais pris mes encyclopédies qui étaient dans un carton vert Dublin, parce que je partais à Dublin à ce moment-là. Je l'appelais, je lui disais, bon, Xavier, t'as pas, j'ai besoin d'une fée un peu salace. Donc il me disait, non, tu vois une fée salace, tu veux pas préciser un peu là, parce que. Donc voilà, il cherchait, on finissait par trouver la fée qui nous correspondait à ce moment-là. Donc on trouve des lèpres jaunes, on trouve des nymphes qui passent par les robinets, ce sont des fées urbaines, hein, donc elles passent par les robinets, par les égouts, etc. On trouve génération. Pour ceux qui ont connu Fraggle Rock, il y avait la grande crado dans Fraggle Rock. Et du coup, on est parti. Je dis, je veux absolument une fée des ordures. On est dans un roman de fantasy urbaine. S'il n'y a pas une fée du caniveau, une fée des ordures, du trottoir, des réverbères, voilà, on n'est plus dans la fantasy urbaine. Et donc, je suis partie de la grande crado et cette idée du tas d'ordures, en fait, qui vit vraiment dans un terrain vague et à qui la communauté noire rend hommage et dont la communauté noire se sert pour au fait majeur et qui parle, alors c'est une fille qui parle à la troisième personne, qui a évidemment une vieille boîte de conserve sur la tête et qui est assez terrible. Oui, c'était.
Et aussi, je me suis fait la réflexion en préparant cette table ronde qu'il y avait un lien très fort entre vos deux livres, Anne et Hélène, parce que dans les deux cas, on a des faits qui. Dans American Faith, on a la grande déesse à la fuite des pogroms faits qui ont eu lieu en Europe pour essayer de trouver la liberté en Amérique. Et elle se retrouve dans une situation finalement qui n'est pas si agréable. Et les fées désenchantées, elles ont fui le désenchantement du monde, en fait.
En fait, elle a pas exactement fui l'Europe. Elle a suivi des hommes. C'est pas pareil. Elle a suivi des hommes auxquels elle était plus ou moins attachée, effectivement. Alors, bon. Elle a surtout fui, je ne vais pas trop en dire non plus, mais disons qu'elle a fui au 19e siècle, il y a moins de guerre sur le territoire finalement, sur son territoire elle. Et pour des raisons qui la concernent, elle a besoin de la guerre. Donc elle est partie voir ce qu'il y avait ailleurs. Enfin, pas au 19e, un peu avant, puis elle a été servie aux États-Unis, ne serait-ce qu'avec les fées indiennes, qui sont plus des esprits, des fées, qui ne sont pas vraiment sympas.
Et donc, chez vous, les fées, finalement, elles sont désenchantées. Elles sont désenchantées parce qu'elles fuient le désenchantement qu'ont les humains, du monde humain.
Oui, tout à fait, en fait. C'est vrai que l'étrange cabaret est, on va dire, un petit peu la dernière enclave dans laquelle les fées peuvent renouer avec un certain âge d'or pour essayer de faire revivre
joie, le bonheur, elles sont très très agaçantes. Ouais.
La joie et le bonheur de la sobriété.
Oui, exactement. Ouais. Donc, elles ne sont pas du tout décadentes. Ce sont les hommes qui les rendent et qui essayent de les utiliser. Il y a une ligue pour la protection des fées qui commence à essayer de contrôler. Parce que Hollywood s'en est emparé, évidemment. Hollywood a senti le filon. Donc, les fées commencent à remplacer les comédiens petit à petit. Et du coup, il y a une ligue de protection des fées qui contrôle, justement, qu'on n'exploite pas les fées, les femmes, ils s'en foutent un peu. Mais les fées, non.
So et elle lui dit, c'est le squelette de nos amours mortes. Et c'est terminé pour lui, elle disparaît, elle ne la reverra plus. Donc là, le repas est très dangereux. De toute façon, elle fabrique aussi des filtres, tout ce qu'on boit avec elle-même, tout ce qu'on mange. C'est, même dans les canneaux de bière, même si elles font manger une prune, un prunier magique, ils poussent des cornes au héros qui a le malheur de mordre dedans. Quoi.
Et puis il y a des créatures, il y a certaines créatures féliques qui demandent des nourritures vraiment très terrestres. Je pensais à le fait pour vous qui vous êtes installé maintenant en Irlande. Est-ce que vous mettez une soupe de lait sur le pas de votre porte pour votre les prochains familiers?
Bah, moi je le sais déjà à Paris, hein, dans la fantaisie urbaine. Aux États-Unis, dans notre vieille Europe, évidemment, on les aurait utilisés d'une façon très universitaire. Là, en revanche, ils sont aux États-Unis, ils sont arrivés aux États-Unis, donc ils sont complètement adaptés. C'est une société un petit peu parallèle, puisque les hommes n'ont pas le droit de les être ce qu'ils font quand même un petit peu. Et surtout, thank you. je n'avais pas à ce qu'il aurait été mangé, utiliser vraiment ça toujours comme personnage secondaire. En tout cas, moi, je n'aime pas toucher vraiment aux artistes que j'ai vraiment aimés. Et je trouve ça toujours assez maladroit. Finalement, pour le résultat, donc oui, on a cette chose, effectivement.
Reste quand même sur cette histoire d'adaptation des faits au monde moderne. Mais ce qui m'a frappé dans l'étrange cabaret, c'est que là aussi vous avez des faits qui finalement sont souvent d'origine relativement ancienne et qui ont su s'adapter au monde moderne et qui sont en fait, j'allais dire, l'histoire se termine à New York. Et ce sont des faits qui sont devenus parfaitement capitalistes quelque part parce que dans l'étrange cabaret, en fait, elle répond à toutes les faiblesses, elle pourvoit à toutes les faiblesses, à tous les désirs des êtres humains, quels qu'ils soient. Ça commence très fort avec évidemment le rêve de revenir jeune et beau. Donc tous ces faits s'adaptent très bien.
Oui, tous ces faits s'adaptent très bien. Effectivement, l'histoire se termine à New York aux États-Unis, alors je pense qu'il y a plusieurs histoires qui se passent dans l'étrange cabaret avec plusieurs faits.
Parce que je vois que l'heure tourne très vite. Et justement, la dernière question, que j'avais posée à tous les quatre, c'était est-ce que les faits de la tradition ont encore une place en
nous? Je vais faire bref, oui, plus que jamais.
Ça, c'est très bref, merci Claudine.
J'allais dire la même chose, mais c'est vrai que oui, c'est essentiel. C'est essentiel.
Un tout petit peu modulé, une pensée légèrement lapidaire. Dans ce que je voulais dire, non seulement elles ont leur place, mais il faut les connaître. Parce que vous remarquerez que dans le livre de mes deux petites camarades, mes deux jeunes camarades, eh bien, s'il n'y a pas une connaissance totale, complète et vraiment extraordinaire, je trouve extraordinaire, des faits du passé, des traditions, des religions même, eh bien, on n'aurait pas les romans que vous écrivez. Après, ça ne se voit peut-être pas. J'espère même que pour le lecteur moyen, ça passe comme ça. Mais on sait que sans ça, il n'y aurait pas la construction, la densité, l'intensité qu'il y a dans vos livres. Donc, les faits traditionnels ont leur place en tant que tels et ont leur place en devenir pour ce qu'elles représentent et pour ce que vous créez avec. première fois que j'ai vu des faits qui n'étaient pas des faits de Disney, avec des faits à paillettes, et où Louis de Courtois, mais quel bonheur, mais vraiment ce personnage 18e, si je me souviens bien, avec une perruque poudrée, qui, si on l'entend éternuer sur une rivière, il vaut mieux partir parce que sinon on se fait noyer. Dans Spirou, en plus, à une époque, il y avait des choses très différentes. Dans Spirou, il y avait Tunique Bleue, il y avait Soda, il y avait, voilà, on n'était pas du tout dans les faits. C'était absolument génial, et cette transmission est là, et on perdure les... Ce qui est génial, c'est qu'on perdure les faits traditionnels avec des faits plus à paillettes, qui sont utiles aussi, dont on a besoin aussi, évidemment, et qui sont des faits mignoles, avec Clochette et autres. Voilà. Donc, oui, on a... C'est pas qu'on a besoin des faits, c'est qu'on peut pas... On peut pas faire sans, en fait. On a été élevé avec des contes de fées et avec des fées et avec cet invisible entreaperçu qui disparaît qu'on tourne l'œil. Donc,
oui, justement, c'est ça, ce qu'on me demande souvent. Moi maintenant, parce que c'est un petit peu rentré dans les mœurs, les faits, et puis la preuve, vous êtes tous là, etc. Il y a quelques années, certainement pas la première fois où j'ai proposé mon bouquin, mon premier bouquin sur les fées ou les lutins, on m'a acheté des cailloux, quoi. J'étais là, non, deux. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on me demande, est-ce que tu crois aux fées? Mais j'en ai la preuve, c'est ça, c'est que on n'a jamais eu autant d'auteurs qui ont écrit sur les faits de façon si belle, si avec de l'humour, qui ont été retirés, qui ont été recherchés les faits, qui ont redonné la vie à travers Al Capone, à travers la fille. Quand je